Bonjour Patrick Semet.
Bonjour Sandrine, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être là avec nous, de prendre le temps un petit peu de faire profiter de vos connaissances à nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Patrice Aimet, je suis psychologue clinicien. J'exerce en cabinet libéral sur Nantes et je fais partie de l'association AP21, qui est donc une association de psychologues catholiques. Et donc c'est une association qui nous permet de nous rassembler entre nos confrères, à la fois donc psychologues, c'est-à-dire avec à moi un métier, une profession, avec des outils, des méthodes spécifiques, et en même temps donc une identité de croyant, de catholique. Comment les deux peuvent se concilier sans bien sûr qu'il y ait de confusion entre les deux. C'est un peu l'objet de l'association.
Bien, du coup, une très très belle mission.
Oui, en effet. Et aujourd'hui, donc, j'ai souhaité vous parler de l'engagement en thérapie. Donc déjà, de définir ce qu'est la thérapie et comment ça se passe une fois qu'on a décidé d'aller consulter un psy. Donc, je commencerai par vous faire une introduction un peu générale sur la thérapie et les concepts de santé mentale. Et puis ensuite, je vous parlerai donc des raisons d'aller consulter, pour quel motif est-ce qu'on va voir un psychologue. Ensuite, je préciserai un peu les différents psys qui existent. C'est vrai que parfois, il peut y avoir un peu confusion entre tous les psys, à la fois donc il y a les psychologues, mais il y a également les psychiatres, les psychothérapeutes, les psychanalystes. Faire un peu le point sur tout ça, sur les différences et les spécificités de chacun. On verra aussi également qu'il existe différentes thérapies. Et enfin, on parlera vraiment donc de la. Une fois que la décision, je dirais, a été prise d'aller voir un psychologue, comment ça se passe, en tout cas sur les premiers temps, comment ça peut se dérouler, et un peu les principes généraux d'une thérapie. Alors, pourquoi consulter? Pendant longtemps, et encore parfois aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cru que le psychologue c'était pour les fous, ou bien pour ceux qui sont pas normaux, ou ceux qui sont trop fragiles. Comme si aller chez un psy, c'était une faiblesse. Et comme si, normalement, on n'avait pas besoin d'aller exprimer nos problèmes, nos souffrances chez un étranger. Alors, en réalité, les choses ont évolué, et c'est un fait aujourd'hui de plus en plus admis que d'aller chez le psychologue, c'est ni une faiblesse, ni réservé à ceux qui sont fous. D'ailleurs, les personnes qui sont vraiment, entre guillemets, quand on dit folles, c'est-à-dire qui souffrent de maladies mentales, généralement sont soignées à l'hôpital avec un suivi psychiatrique. Et une médication associée. Alors donc, qui peut aller consulter un psychologue et pourquoi? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'aller chez un psychologue, et tout le monde peut y aller, sachant que dans les grands traits, je dirais, quand on va voir un psychologue, c'est tout simplement parce qu'on souffre, parce qu'on en a assez de tourner en rond, de répéter les mêmes erreurs, ou encore parce qu'on a le désir de mieux se connaître. Nous sommes des êtres complexes, nous pensons, nous éprouvons des émotions, nous ressentons des sensations et nous agissons dans un corps physique. Et à chacun de ces niveaux, donc pensée, émotion, sensation, corps physique, nous pouvons souffrir à un moment donné d'un symptôme, d'un trouble, d'un déséquilibre. Et comme tout est lié, tout trouble peut se traduire d'ailleurs à différents niveaux. Les motifs de consultation, c'est-à-dire ceux qui vont déclencher la prise de rendez-vous, sont de multiples natures, mais tous, pour la plupart, parlent d'une souffrance psychique. Donc je vais vous donner quelques exemples de motifs de consultation. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais par exemple, on peut décider d'aller chez un psychologue parce qu'on vit dans un mal-être ponctuel ou récurrent, c'est-à-dire qu'on a des idées noires, voire des pensées suicidaires. Donc ça peut évidemment conditionner, à un moment donné, l'envie d'aller consulter parce que on veut se sortir de ça. Ça peut être parce qu'on vit des crises d'angoisse, de l'anxiété qui est un peu diffuse et un peu permanente. Donc pareil, l'envie de comprendre pourquoi et de se sortir de ça. On peut aller consulter parce qu'on a des phobies, c'est-à-dire des peurs, et qui peuvent nous paralyser dans notre quotidien. Alors par exemple, ça peut être la peur de parler en public quand on est par exemple responsable d'équipe. Ça peut gêner et donc motiver l'envie de sortir de ça. On peut consulter parce qu'on traverse une période de, de crise de confiance en soi, une mauvaise image de soi. Hein, on se sent dénigré, on se sent sans intérêt, on se sent inutile. On peut aller consulter parce qu'on souffre d'addiction, par exemple à l'alcool, au tabac, alors tout type d'addiction, hein, ça peut être des drogues, ça peut être l'addiction au jeu. On peut aller consulter un psychologue parce qu'on vit une séparation, un deuil, un moment difficile. On peut aussi aller consulter parce qu'on a vécu un traumatisme psychologique. Alors là, c'est vrai qu'il y a, beaucoup de définitions, hein, du traumatisme psychologique, mais en essence, c'est vraiment un événement de vie qui va venir nous heurter violemment et marquer notre esprit, et qui aura des conséquences psychologiques très perturbantes, comme des cauchemars, des reviviscences, des émotions douloureuses, des troubles amnésiques. Et comme exemple de traumatisme, tout entre guillemets peut potentiellement être traumatisant dans la mesure où c'est un événement imprévisible, et où il y a, ce qu'on, comme on dit, un lien avec avec la mort, c'est-à-dire soit de soi ou même de l'autre. Donc ça peut se retrouver par exemple dans des situations d'agression, dans des situations d'accident ou lors de catastrophes naturelles. Enfin, on peut aller consulter un psychologue parce que, par exemple, en tant qu'enfant ou un adolescent est en échec scolaire, ou à l'inverse, dans une situation de précocité intellectuelle, quoique les deux, des fois, ne s'opposent pas. Hein. Et puis, un autre motif, alors là, je vais m'y arrêter un petit peu parce que c'est un motif qu'on retrouve souvent, hein, pour beaucoup de patients. Un autre motif de consultation, c'est pour guérir de ses blessures d'enfance. Comme on peut parfois l'entendre, hein, tout se joue dans l'enfance. Et alors, c'est vrai que parfois, par l'éducation, on peut avoir vécu des choses difficiles et qui, encore aujourd'hui, nous perturbent et donc vont motiver une démarche de thérapie. Alors, je vais m'appuyer sur Alice Miller, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la question des maltraitances de l'enfant. Alice Miller était psychologue, psychanalyste, philosophe. Je vais commencer par la citer dans un de ses ouvrages. Les traités d'éducation conseillent toujours de ne pas gâter les enfants par trop d'amour et de délicatesse, ce qu'ils appellent l'amour mièvre, mais au contraire, de les endurcir pour les préparer dès le départ à la vraie vie. Les psychanalystes l'expriment différemment en disant qu'il faut préparer l'enfant à supporter les frustrations, comme si un enfant ne pouvait pas l'apprendre tout seul dans l'existence. En fait, c'est exactement l'inverse. Un enfant qui a reçu une véritable affection arrivera mieux à s'en passer une fois adulte que quelqu'un qui n'en a jamais bénéficié. Lorsqu'une personne est avide d'affection, c'est donc toujours le signe qu'elle cherche quelque chose qu'elle n'a jamais eu, et non qu'elle ne veut pas renoncer à quelque chose qu'elle a eu en trop grande abondance dans son enfance. Quelque chose peut de l'extérieur paraître une faveur sans en être une. Un enfant peut être comblé de nourriture, de jouets, de soins, sans pour autant avoir jamais été reconnu et respecté pour ce qu'il était. Donc voilà, c'est un extrait d'Alice Miller, donc qui a vraiment consacré son travail à l'étude des souffrances et des maltraitances que peuvent vivre les enfants. Maintenant, je vais vous citer l'extrait d'un livre de son fils Martin Miller, Le vrai drame de l'enfant doué, qu'il a écrit en 2014. Donc le fils d'Alice Miller, qui devint lui-même analyste, et dont l'extrait que je vais vous proposer est intéressant, car il donne vraiment un aperçu de la pensée d'Alice Miller concernant la violence éducative et le rôle de la psychothérapie et du thérapeute par rapport à ça. Donc je le cite. « Ma mère revendiquait pour chaque enfant le droit de pouvoir développer son originalité. » En même temps, elle révolutionna la façon de travailler les psychothérapeutes. D'après elle, celui qui suivait une thérapie avait le droit d'apprendre comment ses parents s'étaient comportés envers lui. Le but de la thérapie était de découvrir cette vérité pour soi et de revendiquer le droit à un développement de son propre vrai soi. Un adulte ne doit pas demeurer dans la dépendance et dans une attitude conformiste envers ses parents, mais il a le droit de développer son potentiel de façon autonome. dans son livre « C'est pour ton bien », elle y développait principalement des explications sur les mécanismes éducatifs destructeurs et analysait le comportement éducatif répressif comme cause de souffrance psychique. Il s'agissait de la psychodynamique des mécanismes éducatifs destructeurs, c'est-à-dire en quoi une éducation répressive, voire tyrannique, peut avoir des effets conséquences sur le psychisme, notamment en termes de souffrance. Avec une extrême pertinence, elle esquissait la façon dont une idéologie éducative s'est établie au cours de l'histoire. Elle consiste en ce que les parents, au fil du développement d'une relation parent-enfant, se demandent de plus en plus comment pouvoir venir à bout de leur enfant. Et elle dénonce ces mécanismes éducatifs comme un pur instrument de pouvoir. Au cours de l'histoire, l'enfant devient pour ses parents un ennemi qu'il s'agit de combattre au moyen de l'éducation. La terreur éducative a pour but de limiter la vitalité de l'enfant. Alice Miller critiquait cela vertement et démontrait comment ce vécu éducatif conduisait chez l'adulte à des déformations névrotiques. Elle montrait comment, par des mécanismes d'éducation destructeurs, on pouvait être amené à faire agir son vécu éducatif de façon destructive comme modèle comportemental envers soi ou envers autrui. Alors par rapport à ça, pour peut-être être un peu plus clair, elle disait notamment par exemple que toutes les victimes ne deviennent pas bourreaux, mais qu'à l'inverse, tous les bourreaux ont été victimes. À la fin de son livre, elle faisait remarquer que le comportement éducatif destructeur des parents devait absolument être abordé dans les psychothérapies et faire l'objet d'un travail. Elle s'engageait ainsi dans un tout nouveau terrain de la psychothérapie. Dans son troisième ouvrage, L'enfant sous terreur, paru en 1981, il est question du comportement pathogène du sujet qui ne doit pas remarquer la blessure que lui ont causée ses parents. C'est une sorte de commandement des parents de ne pas remarquer que l'enfant ne doit pas remarquer les blessures dont il a été responsable, dont il a été victime, pardon, dont les parents sont responsables, et qui donc les parents en tant que coupables, entre guillemets, ont un réel intérêt à ce que leur enfant, la victime, ne s'aperçoive jamais de ce qu'on lui a fait. Alice Miller formule ici sa vision psychothérapeutique. Le but de la thérapie est que le patient découvre sa propre vérité, sa propre biographie, et qu'il identifie clairement ses parents à leurs actes. Dans ce processus, le thérapeute est le témoin lucide qui soutient le patient dans cet effort. Car si le patient peut reconnaître et faire le deuil de la souffrance refoulée de son enfance, il sera libéré et pourra vivre son vrai soi et se réaliser. Elle était persuadée que le client ou patient avait le droit de découvrir dans la thérapie l'histoire de ses souffrances et ceux qui en étaient la cause, de s'en délivrer avec le soutien loyal du thérapeute de l'aliénation permanente, de découvrir ses propres possibilités et de les vivre enfin dans la vie réelle. Donc voilà, c'est un extrait hein, donc qui, encore une fois, permet un peu de comprendre la pensée d'Alice Miller. Alors c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu dur, hein, c'est-à-dire qu'elle... Il faut aussi remettre un peu dans le contexte. Fin des années 80, c'est au niveau de l'éducation, on n'était pas comme aujourd'hui avec quelque chose d'assez ouvert peut-être et de plus libre quant au rapport qu'on a avec ses enfants. Après, encore une fois, ça c'est dans le cadre de un peu ce qui peut motiver. Un besoin d'aller consulter un psychologue. Pour plus d'informations concernant vraiment un peu une description inspirée scientifique des différents troubles psychologiques et troubles psychiatriques qui existent, on peut se référer à la classification internationale des maladies de l'OMS. Il y a actuellement la version 11 qui est en cours d'élaboration. Mais c'est donc, même sur Internet, hein, on peut aller voir sur l'OMS, classification internationale des maladies. C'est vraiment la norme internationale qui permet de rendre compte des données, des maladies, de toutes les maladies qui existent, si on veut en savoir plus hein, sur les différents, notamment troubles mentaux. Alors j'ai oublié en fait de vous parler déjà de ce que c'est la thérapie et la santé mentale, en fait. Alors déjà, la santé, justement, selon l'OMS, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Toujours selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. La santé et le bien-être mentaux sont indispensables pour que l'être humain puisse, au niveau individuel et collectif, penser, ressentir, échanger avec les autres, gagner sa vie et profiter de l'existence. Donc quand il n'y a plus la santé, entre guillemets, c'est donc la maladie. Et comment est-ce qu'on retrouve la santé? Il s'agit de soigner la maladie et c'est là qu'on parle de thérapie. Donc l'aspect global, la thérapie, c'est vraiment un moyen de prévenir, de traiter, soigner ou soulager une maladie. Alors on verra qu'il existe un grand nombre de thérapies, notamment de psychothérapie, et justement donc les thérapies qui agissent uniquement sur le psychisme sont donc appelées des psychothérapies. Le but de la psychothérapie, c'est donc de se soigner, d'arrêter de souffrir, ou en tout cas de moins souffrir, d'aller mieux, de recouvrer une bonne santé mentale, et plus globalement, on en discutera plus avant tout à l'heure, c'est gagner en vérité, en amour et en conscience de soi et des autres. Alors, qui consulter? On va faire un peu un point, hein. C'est vrai que entre les différents psys qui existent, on peut parfois s'y perdre. Donc je vais vous parler des différents acteurs du milieu psy, entre guillemets. Donc je vais commencer par le psychologue. Le psychologue, c'est donc un professionnel de l'écoute et de l'observation des comportements humains. Il intervient sur le fonctionnement psychologique et la gestion de la dimension psychique avec comme finalité de son exercice la promotion de l'autonomie de la personnalité et dans le respect du code de déontologie des psychologues. Donc en tant que psychologue, c'est vrai qu'on a donc un code de déontologie qui a été actualisé en février 2012 et dans lequel, alors je ne vais pas tous les citer et aller dans le détail, hein, mais pour dire quand même un peu, dans ce code figurent vraiment les grands principes d'exercice de la profession de psychologue. C'est-à-dire le plus important, le respect des droits, enfin le plus important en tout cas, une des bases, le respect des droits de la personne, un devoir de compétence, de rigueur, d'intégrité et de probité, et de formation. Hein, toujours ce qu'on appelle la formation continue. Le psychologue doit se former régulièrement tout au cours de sa carrière, se tenir à jour des avancées hein, dans le milieu de la psychologie. Et alors pour citer le principe qui apparaît en premier dans ce code de déontologie, c'est le suivant, le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues. Le psychologue, je l'ai pas précisé, mais c'est un usage professionnel dont le titre est protégé et qui justifie d'au minimum 5 ans d'études. Donc 5 ans d'études minimum, c'est-à-dire aujourd'hui le master 2 donc pour être psychologue. Et puis si on continue plus loin dans les études, on trouve des docteurs en psychologie, donc qui ont été jusqu'à écrire une thèse. Au niveau de ces interventions, le psychologue peut proposer des consultations, un accompagnement psychologique, et également une évaluation psychologique, avec notamment des tests psychométriques. Par exemple, pour un élève qui se trouve en difficulté scolaire, ça peut être des tests afin d'évaluer son efficience intellectuelle, ou ça peut être une évaluation dans le cadre d'une expertise dans le champ judiciaire, ou enfin en entreprise d'effectuer des passations de tests afin d'évaluer les capacités professionnelles d'un salarié, par exemple. Alors c'est vrai que je dirais il y a trois grandes familles de psychologues. Il y a le psychologue clinicien, il y a le psychologue du travail et enfin le psychologue scolaire, donc il intervient dans le champ de l'éducation. Donc voilà, donc on peut consulter un psychologue pour avoir un avis, pour être accompagné psychologiquement, par exemple pour un soutien moral lors d'une épreuve. Et donc sa spécialité, c'est donc l'écoute, l'observation hein, des comportements humains. Oui, je l'ai pas précisé, mais le psychologue, il intervient au niveau individuel, mais il peut également intervenir hein, à un niveau collectif, par exemple dans une institution. Le psychiatre maintenant. Donc le psychiatre, en fait, c'est un médecin qui s'est spécialisé donc en psychiatrie, qui est donc habilité à prescrire des médicaments et qui soigne des pathologies mentales lourdes, des maladies mentales diagnostiquées, par exemple la schizophrénie, les troubles bipolaires. Et donc tout ce qui inclut des symptômes de l'ordre du délire, d'un rapport très perturbé à la réalité, et donc qui nécessite une médication. Donc le psychiatre exerce à l'hôpital, hein, l'hôpital psychiatrique, mais aussi dans des services mobiles, et puis également en cabinet. Le psychothérapeute maintenant, donc le psychothérapeute, c'est un professionnel qui use d'une méthode particulière de soins psychiques. Donc on va le voir après, mais il y a plusieurs donc psychothérapies qui existent. Et donc le psychothérapeute utilise une de ces méthodes pour donc amener un soin psychique au patient. Alors à savoir que psychologue et psychiatre peuvent être aussi psychothérapeutes. C'est-à-dire que moi-même, en tant que psychologue clinicien, je me suis formé à une psychothérapie, qui est le MDR. On pourrait éventuellement en parler un peu plus tout à l'heure. Et j'attire aussi l'attention quand même sur le fait que... Alors c'est vrai que, psychothérapeute, il y a eu des nouvelles lois il y a quelques années sur l'usage du titre de psychothérapeute. C'est quelque chose qui, encore une fois aussi, il faut faire attention en gros à ce que le professionnel ait bien déposé... soit bien enregistré sur le registre national des psychothérapeutes, hein, pour éviter des dérives ou de voir quelqu'un, dont on n'est pas sûr de la formation, pour vraiment s'assurer que, qu'on va chez un professionnel reconnu. Donc encore une fois, ça peut être intéressant de se renseigner, notamment en lui demandant alors ce qu'on appelle le numéro ADELI. Les psychologues aussi ont un numéro ADELI, hein, c'est vraiment l'inscription, ça marque l'inscription. Sur les listes donc reconnues de professionnels auprès de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, dont dépend le professionnel. Il y a donc différentes psychothérapies. Alors c'est vrai que quand on cherche à consulter un psy, on peut aussi parfois s'y perdre dans tellement il y a de possibilités, hein. Alors déjà, il y a les thérapies individuelles, mais il y a aussi les thérapies, on peut avoir des thérapies de couple, des thérapies familiales, thérapies groupe. Au niveau des thérapies individuelles, donc il y a ce qu'on appelle les thérapies brèves, c'est-à-dire dans le principe de pas rester sur un suivi sur des mois, voire des années, hein, mais bien de traiter un symptôme notamment en particulier sans s'intéresser à la globalité de l'histoire de la personne. Par exemple, de thérapie brève, on parle souvent des TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale. Donc où vraiment, là, on est axé sur le symptôme, sur ce qui fait souffrir la personne. On peut aussi parler des thérapies de l'hypnothérapie, hein, une thérapie par l'hypnose. Thérapie systémique également, donc là où on s'intéresse sur vraiment le système, l'environnement dans lequel évolue la personne. On a aussi les thérapies humanistes, la gestalt-thérapie. Donc centré notamment sur la personne, dans l'ici et le maintenant. Il y a des thérapies qui sont basées sur la parole, l'association libre, notamment la psychanalyse. Puis des thérapies basées aussi sur le corps. On trouve vraiment de tout. Dans les thérapies longues, hein, c'est vrai que donc il y a un... Oui, j'en ai pas parlé sur les différents psys, mais donc il y a les psychanalystes, je vais en parler maintenant. Donc psychanalyste, c'est une psychothérapie, mais c'est vrai que je dirais au niveau historique, ça a marqué vraiment l'histoire de la psychologie. Hein. Ça a été inventé par Sigmund Freud, la psychanalyse. C'est à la fois donc tout un corpus théorique, c'est-à-dire une étude sur le fonctionnement du psychisme, une description de l'appareil psychique, et de comment tout ça fonctionne, hein, l'économie psychique, c'est-à-dire comment est organisé, si vous voulez, l'appareil psychique. Et puis le deuxième volet de la psychanalyse, c'est donc le soin, hein, la cure psychanalytique, où là, pour le dire un peu en résumé, c'est l'idée en fait de d'amener à la conscience tous les processus inconscients, tous les vécus inconscients, c'est de les amener à la conscience. Et c'est ça qui est donc qui permet aux patients de se soigner. Alors, la psychanalyse, c'est, on parle de thérapie longue. Hein, c'est, contrairement aux thérapies brèves, quelques séances ou quelques semaines peuvent suffire. La psychanalyse, c'est vraiment, là, on va s'intéresser à l'histoire du sujet. Il va pouvoir vraiment remonter dans l'enfance. Et donc, c'est des suivis de longue durée. La prise de décision maintenant, donc on a évoqué les différents psys, les différentes psychothérapies, les différentes raisons qui peuvent donc amener à consulter. Et donc on va parler maintenant du moment d'aller consulter justement quand finalement on a pris la décision d'aller voir un psy. Alors d'abord les principaux obstacles qui peuvent jouer hein, dans la prise de décision, c'est-à-dire ce qui peut nous empêcher d'aller consulter. Il y a ce qu'on appelle déjà la force de l'habitude, et on va le voir après, la peur de l'inconnu. Donc la force de l'habitude, c'est quelque chose de redoutable, et dans la mesure où c'est, comme on s'est habitué à quelque chose, et là on parle d'un fonctionnement, mais du coup, on a du mal à le lâcher, et c'est vrai que il y a une forme de confort finalement par ce qui est connu. Ce qui est connu est confortable, même si c'est un peu douloureux. Alors que l'inconnu, par définition, donc n'est pas connu, donc pas maîtrisé, et c'est ça qui peut faire peur. Donc la peur de l'inconnu, c'est le risque de perdre quelque chose pour une chose pire encore, l'angoisse de trouver quelque chose de dangereux, d'aller chercher ce qu'on a en soi. On peut avoir peur de trouver quelque chose de monstrueux. Et puis au bout, l'angoisse de mort aussi. Hein, c'est-à-dire que quand on a vécu avec un fonctionnement pendant des années, d'aller le remettre en question en thérapie, c'est aller se remettre entièrement en question, et ça peut être très dur, parce que donc il y a vraiment une forme de courage hein, à avoir. Car c'est vrai que s'engager en thérapie, c'est donc s'engager dans une démarche de découverte de soi, et donc potentiellement découvrir des choses cachées, en tout cas qu'on s'était cachées, et qui pourrait nous faire peur. Alors par rapport à ça, quand même dire aussi que souvent on a d'autant plus peur des choses qu'on les a mises très très loin. Hein. Alors les psychanalystes parlent de refoulement, c'est-à-dire les choses vraiment qu'on a mis de côté, qu'on a voulu cacher aux autres, mais aussi à soi, qu'on a mis très très loin entre guillemets. Elles auront d'autant plus de force qu'elles sont très loin finalement. Et puis petit à petit, dans les thérapies, d'arriver à creuser un peu en soi, d'aller chercher en soi, finalement, souvent, on réalise que, c'est pas un monstre caché au fond, quoi, mais c'est plutôt, même un désir de vie, souvent, qu'on a un peu, qu'on peut avoir mis un peu de côté. Si je poursuis un peu par rapport à ce que pouvait dire Alice Miller, par exemple, sur, finalement, la vitalité de l'enfant, qui, parfois, pas faire de généralité, hein, mais parfois, on peut avoir une éducation qui nous oppresse et surtout qui nous empêche de nous épanouir et de vivre vraiment notre force de vie, je dirais. Du coup, on la réprime et puis finalement, ça devient quelque chose qu'on cache et qu'on se cache à soi-même. Et puis, on grandit en se construisant, mais il y a un moment où c'est vrai que si on se la réapproprie, en gros, du coup, au départ, ça peut faire peur parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, on parle d'une force de vie. Et du coup, de retrouver ça, comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, ça peut être un peu effrayant et en même temps donc c'est un des buts de la thérapie, c'est vraiment de se retrouver aussi par rapport à soi quoi. Alors ce qui peut aider dans la prise de décision hein, d'aller consulter tout simplement c'est la motivation de la personne pour par exemple se sortir d'une souffrance, pour mieux se connaître, pour se réapproprier sa vie, son autonomie. On va donc prendre un rendez-vous et lors du premier entretien, c'est un moment évidemment important, hein, cette première rencontre, parce que ça va être le moment où on va se présenter, mais la présentation, elle se fait dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que c'est aussi bien le patient qui va se présenter un peu son vécu et pourquoi surtout il vient consulter, mais c'est aussi le thérapeute qui va se présenter en tant que thérapeute, ce qu'il va pouvoir proposer. Et donc c'est un premier entretien qui va permettre de savoir tout simplement si un travail va être possible. C'est important pour la personne de vraiment de voir et de sentir si tout simplement elle va pouvoir s'engager dans ce travail avec ce thérapeute. Et c'est vrai que du coup j'invite aussi les personnes dans ce genre de situation tout simplement à vraiment sentir si elles se sentent à l'aise, si on se sent écouté, libre de s'exprimer. C'est quand même un des premiers principes d'aller chez un psy, c'est de pouvoir parler librement et d'exprimer vraiment ce qu'on porte. Sentir aussi le bureau, si on se sent bien dans le bureau, enfin voilà, vraiment se faire confiance en fait, tout simplement, et après si on le sent, donc s'engager sur un travail, sachant que souvent à l'issue d'un premier entretien, alors on peut parler de contrat thérapeutique qui peut être proposé donc entre le patient et le thérapeute. Contrat thérapeutique, c'est-à-dire un peu pas forcément quelque chose de signé, encore que c'est aussi possible, mais en tout cas, voilà, ça permet de définir un peu les modalités du cadre de travail. Par exemple, alors des choses très importantes de l'ordre du cadre, c'est-à-dire la fréquence des séances, la durée des séances, le coût des séances, parce que c'est vrai que c'est aussi un investissement, une thérapie. Et puis, pour quelle problématique? Est-ce que vraiment on vient consulter pour un symptôme en particulier à traiter? Par exemple, une peur quand on est une peur des autres, une peur une claustrophobie, la peur d'être enfermé, soit quelque chose donc de particulier, ou une angoisse ou un événement, soit vraiment une démarche de soins plus globale. Alors autant c'est vrai que quand on parle d'une thérapie pour vraiment soigner un symptôme principal et pas un suivi global, on est plus à même de définir un peu le nombre de séances qui pourraient être nécessaires, même si on peut jamais dire combien de séances il faudra, mais alors que quand on est sur une démarche de soins plus globale, là c'est vrai qu'on part souvent sur des suivis à plus longue durée. Donc si la personne a confiance, le sent bien et que ça correspond un peu déjà à ce qu'elle attend, donc le suivi peut démarrer. Et donc le suivi démarre, c'est donc une aventure qui s'enclenche, et comme toute aventure, alors il y a des hauts, des bas, mais toujours donc en ligne, en fil rouge, vraiment l'amélioration de la santé psychique et un traitement des symptômes psychologiques perturbants, désagréables, douloureux. Le thérapeute est là pour soutenir les efforts du patient, pour l'aider à progresser et tout simplement le soutenir, sachant que le thérapeute, le thérapeute ne peut pas évidemment faire le travail à la place du patient, c'est-à-dire à un moment donné, la thérapie va permettre au patient de traverser de couches de peine, de traverser ses douleurs. Le thérapeute soutient ça, et c'est le patient qui, quand il le sent, quand il, évidemment, à son rythme, ça c'est quelque chose d'important aussi, c'est toujours le... Enfin, après, voilà, je parle en mon nom, enfin, en tant que thérapeute, mais selon moi, c'est toujours évidemment au rythme du patient quand il est prêt à aborder les choses. Voilà. Alors, c'est vrai qu'idéalement, au sortir d'une séance, on peut se sentir bien, voire mieux qu'en arrivant. On a compris des choses sur soi, sur son histoire, sur ses fonctionnements. On peut se sentir regonflé de joie, d'amour, d'avoir avancé. Donc, c'est aussi important, évidemment, de vivre ces moments-là et de pas lâcher, entre guillemets. Donc, en conclusion, je dirais que l'engagement en thérapie, c'est finalement un engagement de soi à soi, une promesse que l'on se fait de partir à la découverte de soi, quels que soient les doutes, les peurs qui peuvent nous habiter. Parfois, on peut avoir envie d'arrêter, l'impression qu'on a fait le tour, qu'on tourne en rond. Et c'est parfois à ces moments-là précisément qu'il ne faut pas lâcher, que peut-être quelque chose d'important est sur le point d'être réalisé pour la personne. Et puis quand vraiment on a été au bout de sa thérapie, c'est-à-dire la fin de la thérapie, vraiment, ça apparaît comme une évidence. Souvent, quand finalement, soit tout simplement parce que le contrat est rempli, c'est-à-dire on avait tel symptôme à soigner qui a été soigné. Donc voilà, là, il n'y a pas de question à se poser. Hein. Et je dirais que la thérapie, c'est... J'avais un peu une image, en fait, qui me venait. C'est un peu comme un pèlerinage. C'est-à-dire que la thérapie, c'est vraiment prendre le chemin à la découverte de soi. Quand le pèlerinage, c'est prendre le chemin à la rencontre de Dieu. Et c'est vrai que dans les deux, finalement, bah, c'est l'idée de prendre son bâton et de se mettre en marche. On ne sait pas forcément ce qu'on va trouver, au sens comment ça va se passer, par quel chemin on va passer et ce qu'on va rencontrer. Mais il y a quand même cette idée de rencontre, alors de soi, de l'amour, de Dieu, mais au bout qui motive à se mettre en marche.
Et puis en tout cas,
je finirai enfin par encore une citation alors d'Alice Miller, je trouvais qu'il positivait un peu aussi enfin mon propos. Donc dans son livre « L'avenir du drame de l'enfant doué ». Nous ne pouvons rien changer à notre passé. Faire que les dommages qui nous ont été infligés dans notre enfance n'aient pas eu lieu. Mais nous pouvons nous changer, nous réparer, regagner notre intégrité perdue. Pour cela, il faut nous décider à considérer de plus près le savoir que notre corps a emmagasiné sur les événements passés et à le faire émerger à notre conscience. Cette voie est certes inconfortable, mais c'est la seule, semble-t-il, qui nous permette de sortir enfin de l'invisible prison de notre enfance et de nous transformer d'inconsciente victime du passé en un homme ou une femme responsable qui connaît son histoire et vit avec elle.
Patrice, est-ce que vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours là, Sandrine.
Voilà, alors j'en profite moi-même pour vous poser quelques petites questions. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient consulter, mais qui, même si, malgré vos très bonnes explications, ne savent pas trop vers qui se tourner, puisqu'il existe, voilà, les psychologues, psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes, qui peut les aider à trouver vers qui aller?
Alors, déjà, ça peut être par l'entourage, hein, c'est-à-dire de. Alors, c'est vrai que ça peut être. C'est une démarche qui peut être très intime, hein, on n'a pas forcément envie d'en parler. Et pour autant, quand on, voilà, avec un entourage de confiance, des gens à qui, déjà naturellement, on a tendance à se confier, ça peut être déjà de parler de cette intention d'aller consulter. Je dirais, peut-être vraiment le critère, c'est en tout cas que la personne soit vraiment avec un titre reconnu, donc psychologue ou psychiatre ou psychothérapeute, mais vraiment inscrit sur un annuaire officiel. Et donc après, ça peut être par les médecins traitants, hein, qui sont vraiment des prescripteurs importants pour les psys, c'est-à-dire de demander tout simplement à son médecin traitant qui on pourrait consulter.
Et alors aussi, j'imagine que vous pouvez accueillir donc plusieurs personnes, peut-être quand il s'agit de problèmes. J'imagine qu'il doit y avoir des couples, il doit y avoir peut-être des soucis parents-enfants. Je ne sais pas qui. Enfin, à plusieurs, comment se passent les thérapies à plusieurs?
Alors c'est vrai qu'il y a effectivement. Alors moi, en l'occurrence, je reçois en individuel enfants, adolescents, adultes. Après, effectivement, hein, des collègues qui sont formés à la thérapie de couple. Donc là, ça passe beaucoup par des exercices, notamment des mises en situation, et puis vraiment de que chacun puisse, de façon, je dirais, équitable, exprimer un peu dans quel état il est par rapport à son couple. Donc c'est cheminer. Dans ce cas-là, c'est vraiment cheminer à deux par rapport à son couple. Après, pour les thérapies familiales, il existe des centres vraiment spécialisés pour la thérapie familiale. On est beaucoup sur des théories systémiques, hein, quand on est dans le champ de la thérapie familiale. Ça va vraiment permettre à la famille, en tant qu'organisation, en tant que système, d'évaluer un peu les interactions qui s'opèrent entre chaque membre de la famille. Et c'est souvent... vraiment par l'analyse et la gestion de ces interactions qu'on peut arriver à débloquer des choses difficiles. C'est vrai qu'en thérapie familiale, souvent, on a ce qu'on appelle le patient désigné, c'est-à-dire souvent dans une famille, enfin, quand une famille a des difficultés, souvent c'est un même membre de cette famille qui porte un peu tous les symptômes. Hein. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, c'est toujours la même personne Donc voilà, c'est un point de départ et encore une fois, voilà, vraiment de travailler autour des interactions qui se font entre chaque membre.
Alors, nous avons reçu un SMS, bon, un petit peu tardivement parce que nous arrivons au terme de l'émission, mais je vais quand même vous le lire. D'accord. Alors, bonjour, merci pour votre émission. Pouvez-vous me dire comment réagir devant un enfant de 15 mois qui ne veut pas marcher, demande les bras, ou bien pourquoi refuse-t-il de marcher? On l'a mis à la crèche à 1 an, il est toujours malade. Merci de nous éclairer.
Oui. Alors c'est vrai que le fait de marcher, c'est d'aller vers l'autonomie. Hein. Quand l'enfant se met à marcher, bah, il va être capable de se déplacer tout seul, donc d'aller tout seul un peu dans son environnement, de se déplacer librement. Alors peut-être que ça parle d'une difficulté pour l'enfant à sortir de ce statut, je dirais, de bébé, c'est-à-dire de sortir un peu de la dépendance du nourrisson pour aller vers petit à petit une autonomie. Alors ça peut être derrière parce qu'il y a eu une angoisse de séparation, une angoisse d'être séparé de ses parents. Peut-être j'irai voir de ce côté-là, quoi. L'idée d'acquérir son autonomie et de pouvoir et de plus être un bébé, quoi, de petit à petit, voilà.
Merci en tout cas pour votre réponse.
Je vous en prie.
Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de l'émission. Merci pour tout ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. On reste en union de prière. Merci, bonne journée.
En union de prière. Très bonne continuation à vous.
Merci. Au revoir.